Là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et cela depuis les temps mythologiques où la Tarasque faisait les 400 coups dans les marais de la ville, où le Tarasconnais d'alors organisait des battues contre elle. Cette habitude est restée. Et tous les dimanches matin, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, dans un tumulte de chiens, de trompes et de corps de chasse. C'est superbe à voir. Seulement, le gibier manque. Il manque totalement. À ça, me direz-vous, puisque le gibier est si gras à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais vont faire tous les dimanches? Ce qu'ils font? Eh bien, c'est très simple. Ils s'en vont en pleine campagne, à 2 ou 3 lieues de la ville, se réunissent par petits groupes de 5 ou 6, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier ce qu'ils ont apporté de victuailles et commencent un déjeuner interminable, arrosé de ces vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Quand on est bien lesté, on se lève, on siffle les chiens, on arme les fusils et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces et la tire en vol avec du 5, du 6 ou du 12, enfin selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé le roi de la chasse et rentre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette criblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Comme chasseur de casquettes, Tartarin n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matin, il partait avec une casquette neuve, et tous les dimanches soir, il revenait avec une loque. Dans la maison du Baobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi les Tarasconnais le reconnaissaient-ils pour leur maître. Et c'était à lui, qui avait lu tous les traités, tous les manuels, toutes les chasses possibles, que l'on faisait appel comme arbitre lorsqu'une discussion s'élevait entre les chasseurs. C'est à tout cela que Tartarin devait sa haute situation dans la ville. D'ailleurs, il avait su prendre tout le monde. L'armée était pour lui. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui « c'est un lapin ». La magistrature était pour lui. 2 ou 3 fois, en plein tribunal, le vieux président Ladevèze avait dit, parlant de lui, « c'est un caractère ». Le peuple, enfin, était pour lui. Sa carrure, sa démarche, sa réputation de héros le faisait considérer avec respect, et lorsque le dimanche soir, quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, les portefaix du Rhône, le voyant rouler ses pectoraux et bomber le torse, se disaient entre eux, « c'est celui-là qui est fort. Il a double muscle ». Et pourtant, en dépit de cette admiration et de ses doubles muscles, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, et le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Oh, que de fois, par les lourds après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'était levé en rugissant, que de fois il s'était jeté sur le mur pour décrocher une panoplie. Le pauvre homme, oubliant qu'il était chez lui à Tarascon, avec un foulard sur la tête et des caleçons longs, mettait ses lectures en action et s'exaltant au son de sa propre voix, criait en brandissant une hache ou un tomahawk, « Qu'ils y viennent maintenant !» Il ? Qui il ? Tartarin ne le savait pas très bien lui-même. Il, c'était tout ce qui attaque, tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. Il, c'était l'Indien Sioux dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'était le Touareg du désert, le pirate malais, le bandit des Abruzzes, enfin, il. C'est-à-dire la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais hélas, l'intrépide Tartarin avait beau les appeler, les défier, ils ne venaient jamais. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils seraient venus faire à Tarascon? Avec cette rage d'aventure, ce besoin d'émotions fortes, cette folie des voyages, comment se faisait-il que Tartarin n'ait jamais quitté Tarascon? Car enfin, c'est un fait. Jusqu'à l'âge de 45 ans, l'intrépide Tarasconnais n'avait pas une seule fois couché hors de sa ville. C'est au plus, il connaissait Beaucaire, sans d'ailleurs y avoir mis les pieds. Et cependant, Beaucaire n'est pas loin de Tarascon, puisqu'il n'y a que le pont à traverser. Seulement, il a été si souvent emporté par les coups de vent, il est si long, si frêle, et le Rhône a tant de largeur à cet endroit que, ma foi, Tartarin préférait la terre ferme. Ce qu'il faut avouer, c'est qu'il y avait en Tartarin deux natures différentes. Le Tartarin qui portait l'âme de Don Quichotte, avec les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, et le Tartarin qui ressemblait à Sancho Panza. « Je pars !» criait Tartarin Quichotte. « Je reste, » répondait Tartarin Sancho en pensant à ses rhumatismes. « Couvre-toi de gloire, Tartarin !» et l'autre de répondre « Tartarin, couvre-toi de flanelle. Oh, les bons fusils à deux coups, les dagues, les lassos. Oh, les bons gilets tricotés, les bonnes casquettes à oreilles. Une hache, qu'on me donne une hache !» Et là-dessus, Tartarin Sancho appuyait sur la sonnette. « Jeannette, mon chocolat !» Et voilà comment Tartarin de Tarascon n'avait jamais quitté Tarascon.